Pour le moment, nous accueillons Didier au 3921. Bonsoir Didier.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir. Comment allez-vous Didier ?
Eh bien écoutez, ça va doucement, avec tous les problèmes que j'ai, quoi.
D'accord. Alors, quel âge avez-vous Didier ?
53 ans.
D'accord. Et vous nous appelez d'où ?
De Rennes.
De Rennes, d'accord.
À côté de Rennes, une commune à côté de Rennes.
D'accord.
Noyelles-sur-Vilaine.
Alors, je crois que vous nous appelez pour des histoires liées à votre milieu professionnel et des problèmes que vous rencontrez depuis un moment dans le cadre de votre travail.
Tout à fait. Que je rencontre moi, mais malheureusement, beaucoup de salariés, que ce soit dans le public ou dans le privé, rencontrent les mêmes problèmes que moi, le harcèlement, la souffrance au travail,
oui.
Tous ces problèmes-là, mmh. Aujourd'hui, c'est terrible. Et effectivement, moi, j'ai été pris dans ce circuit-là et malheureusement, j'ai du mal à m'en sortir, malgré que aujourd'hui, je sois en arrêt de travail depuis 6 ans déjà pour des raisons de santé liées à justement aux conditions de travail dans lesquelles j'ai travaillé. Donc effectivement, voilà, aujourd'hui, je paye cash tout ce qui s'est passé, quoi.
Ces 3 dernières semaines, nous avons eu l'occasion d'échanger 4 ou 5 reprises avec des personnes comme vous, Didier, affrontant ce type de problématique dans le cadre de leur travail. Je me dis toujours en vous écoutant, est-ce normal qu'un salarié soit arrêté depuis 6 ans, soit abîmé au point d'être arrêté, c'est-à-dire de ne plus travailler? Comment est-ce qu'on en arrive là, Didier? Expliquez-moi.
Alors, lui-même, en parlant de moi, lui-même est abîmé, mais c'est lui-même et sa famille qui sont détruits.
Oui.
Parce que le couple vit ça tous les jours, entre mon mari qui prend des médicaments, qui boit de l'alcool, etc., etc., qui fait des tentatives de suicide. Malheureusement, ça m'est arrivé et ça me porte beaucoup au cœur. Voilà. Et puis, si je peux reprendre un petit peu chronologiquement un peu ma carrière professionnelle pour démontrer qu'effectivement, tout allait bien, une carrière sans incident particulier, une reconnaissance de ma hiérarchie, tout s'est très bien passé. Et malheureusement, à l'arrivée d'un nouveau supérieur hiérarchique, les réorganisations et tout ça ont fait que malheureusement, quand on ne rentre pas dans le système ou qu'on ne veut pas rentrer dans le déni du travail, eh ben, malheureusement, on se retrouve confronté à ce genre de problème.
Vous avez une carrière où tout se passe bien, Didier. Hein, 22 ans de boîte, je lis sur votre...
28 ans aujourd'hui.
Ben 28 oui, ans aujourd'hui.
28 ans et 6 ans d'arrêt, quoi.
Qu'est-ce qui fait qu'à l'arrivée de ce supérieur hiérarchique, tout à coup, tout explose? Comment se comporte-t-il vis-à-vis de vous? Est-ce que c'est vous aussi spécialement ou d'autres sont dans votre état aujourd'hui? Est-ce que...
Mais non, malheureusement, j'ai supporté l'ensemble du service pour ces problèmes-là, quoi. Surtout au niveau des techniciens, quoi. En fait, moi, pour vous dire, j'étais pas quelqu'un de fragile psychologiquement et moralement. J'ai commencé ma carrière, en fait, au début, c'était pas au CHU. J'ai travaillé dans les sapeurs-pompiers de Paris.
Oui.
Donc, j'ai été 5 ans dans les sapeurs-pompiers de Paris. En 1986, je suis rentré. Et donc là, professionnellement, je me suis épanoui complètement. Et travail en équipe, une discipline et une rigueur professionnelle omniprésente. Donc voilà. Et donc, après ces 5 années que j'ai réalisées dans les sapeurs-pompiers de Paris, en 1992, donc, je suis rentré au CHU. Et donc, à partir de là, on m'a confié des fonctions de responsable sécurité. Ça a duré pendant 5 ans. J'ai été désigné pour mettre en place toute la sécurité incendie dans l'établissement, la formation des personnels, les moyens de protection, la prévention, le respect des règles de sécurité, les travaux, etc. Donc voilà. Pendant cette période-là, de 92 jusqu'à 97, tout se passe très bien. Reconnaissance de la hiérarchie, un travail très épanouissant, sans problème. problèmes particuliers, et puis voilà quoi. Et au bout de, justement de ces 5 années passées sur un établissement, on m'a confié d'autres établissements, donc j'ai été responsable en fait de 3 établissements hospitaliers, en particulier des maisons de retraite, jusqu'en 2010, donc j'étais responsable des commissions de sécurité, etc. Je ne sais pas si vous connaissez, mais certains interlocuteurs peut-être connaissent. Et à partir de là, tout se passait encore très bien jusqu'en 2010. Et en 2010, malheureusement, donc le chef de service s'en va et arrive un nouveau chef de service.
Oui.
Et on l'est. Pardon, allez-y, excusez-moi.
Non, je vous disais oui, je vous écoute.
Et donc, à partir de l'arrivée de ce nouveau supérieur hiérarchique, certaines personnes se sont manifestées auprès de lui pour changer les organisations de travail. Et moi, un jour, en 2010, j'apprends par un collègue que j'étais plus responsable des établissements de personnes âgées sur lesquels j'avais travaillé pendant 22 ans, comme vous disiez tout à l'heure.
Dont on peut penser en plus qu'en ayant travaillé sur le même secteur depuis 22 ans, vous aviez acquis une expérience profonde.
Tout à fait. J'ai passé la fonction de chef de sécurité incendie. Je suis passé de catégorie C à catégorie B en tant que cadre. Donc une évolution de carrière remarquable, hein. Ça là-dessus, j'ai rien à reprocher à l'institution. Et par contre, à l'arrivée de ce nouveau supérieur, donc ça a duré entre 2010 et 2013, il m'a retiré mes responsabilités en fait les unes après les autres.
En vous expliquant pourquoi
Aucune explication. Ouais, et en plus, c'est pas mon supérieur qui me le dit verbalement et en face à face. C'est un collègue qui vient me voir dans mon bureau. Il me dit tu t'occupes de quoi? Je dis je m'occupe d'un établissement de personnes âgées. Il dit, et puis il me crie sur le dos. Il me dit t'es plus responsable, tu n'as plus rien à faire là-bas. Si tu mets les pieds là-bas, j'en parlerai au chef. Voilà. Alors là, j'ai été outré. Ça m'a cabossé complètement.
Bien sûr, bien sûr.
J'étais au fond du trou là. Tout s'écroulait devant moi là. Je tremblais de partout. Ça a été une catastrophe.
Est-ce que vous avez eu les réflexes de vous défendre à un moment? Est-ce que vous pouviez vous défendre, c'est-à-dire aller au-delà de ce supérieur hiérarchique et aller...
Alors, les trois premières années, là, de 2010 à 2013, en fait, j'ai pas bougé. J'ai accepté. Je culpabilisais tellement par rapport à tout ça. Je dis, c'est de ta faute, t'acceptes pas les règles, etc. Donc, je me sentais responsable de cette situation et de cette violence, parce que c'est carrément une violence verbale. Et j'ai accusé le coup pendant ces 3 années. Et j'ai craqué. En fait, on m'a retiré mes responsabilités et on les a réparties sur l'ensemble des techniciens. Et en 2013... Bizarrement, comme les autres ne voulaient plus exercer certaines missions, mon chef m'a demandé de reprendre des choses qu'on m'avait retirées 3 ans avant.
Oui.
Alors là, j'ai pas compris. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, attendez, vous m'enlevez tout et maintenant vous me redonnez parce que les autres ne veulent plus le faire. Donc ça a été une catastrophe. Et là, en février, tout a commencé, mes premiers arrêts de travail ont commencé en février 2013. Des arrêts de travail successifs. Attends, excusez-moi, je bois un peu d'eau.
Allez-y, je vous en prie.
Donc à partir de 2013, tout s'est écroulé. Vous savez, je passais mes journées, j'allais au moins 3 fois par jour vomir, tellement le stress et la boule au ventre étaient importantes. En fait, j'arrivais au travail le matin. Je recevais plus de mails, je recevais plus de coups de téléphone. J'étais complètement mis à l'écart. On ne me parlait plus. Quand je me présentais pour le café, pour aller boire un café, tout le monde discutait. Dès que j'arrivais dans la salle, il n'y avait plus de discussion. Donc je prenais mon café et je quittais la salle. pour pouvoir les laisser discuter librement. Et bon, c'était pour parler de moi, c'était pour échanger, alors que moi, j'avais plus aucun échange sur tout ce qui était sur le service, quoi. J'avais plus rien. J'étais ignoré, j'étais mis à l'écart, je ne participais plus aux réunions. Hein. Et le premier jour où je me suis arrêté, mon chef ne me parlait plus. Il me mettait des post-it sur mon bureau, sur mon truc. Il ne m'adressait plus la parole, il ne me demandait plus si mon travail ça allait, plus rien. En fait, j'étais une ombre. Voilà. Je venais au travail, je ne sais pas ce que j'allais faire.
Et il n'y a rien de pire, comme on l'a dit sur cette antenne durant ces. Je ne sais pas si vous avez eu les témoignages qu'on a eu ces dernières semaines.
J'ai pas tout vu.
C'est ça qui tue, en fait. C'est d'arriver au travail et de ne pas savoir ce qu'on va faire et de voir que sciemment, on va vous laisser comme ça dans le vide sans vous donner quoi que ce soit à faire. Je parlais de colle l'autre jour à une de nos auditrices. De cette impression, ça doit être la même impression que d'être en colle. Je ne sais pas si vous aviez été en colle quand vous étiez plus jeune.
Oui, bah oui, au collège.
Moi j'ai été en colle pas mal. Et je me rappelle de cette angoisse que j'avais de n'avoir rien à faire.
Ah oui, non, mais c'est terrible. Il y a des gens qui se plaignent à l'inverse et qui font un burn-out, qui se plaignent d'avoir trop de travail, une charge de travail, alors que à l'inverse, c'est la même chose. C'est-à-dire, toute votre carrière s'est bien déroulée pendant 22 ans et du jour au lendemain, pompier de Paris, j'ai vécu des scènes sur intervention, mais où fallait être vraiment présent, fallait travailler en équipe, fallait être responsable, fallait. Donc j'ai vécu quelque chose. J'étais au moment des attentats, j'y étais moi sur Paris en 87. Donc j'ai connu les attentats à la Défense par exemple et tout ça. Donc et ce travail en équipe, ces échanges, et sachant que les collègues qui se sont retournés contre moi parce qu'ils ont accepté cette façon de travailler qui n'était pas bonne, parce que on foutait tout en l'air, ce qu'on avait créé pendant des années et des années, on mettait tout en l'air, quoi. Et donc ça c'est terrible, quoi. Et de voir les gens accepter de détruire tout ce qui a été créé, c'est pas possible.
C'est terrible. Il y a, bien évidemment, il y a des salariés qui aujourd'hui vivent le bonheur, l'épanouissement au travail, et souvent c'est lié à cette camaraderie, cette solidarité, et puis le fait de partager. D'ailleurs, c'est la grande majorité des salariés qui leur vie tourne autour. Non, mais je dis que leur vie tourne autour du travail. Ils aiment aller au travail le matin.
Tout à fait. Et ce qui est le plus malheureux, c'est que ces collègues-là, avant que ce chef n'arrive et qu'il retourne autour, on sortait ensemble, on mangeait ensemble, le week-end on se voyait.
C'est fou.
Et là, tout est cassé parce qu'il y a des gens qui veulent des évolutions. Voilà, c'est l'évolution professionnelle. Faut se mettre de ce côté-là, parce que si tu te mets de ce côté-là et tu revendiques, tu vas te mettre à dos le
voilà, chef.
C'est terrible. C'est ce qu'on appelle les petits chefs.
Et croyez-moi, il y en a. L'autre jour, je disais, l'une de nos auditrices me disait « Pourquoi vous dites ça, Olivier ?» Parce que j'ai dit, vous savez, aujourd'hui, dans ce monde-là, les méchants sont gagnants. Souvent des méchants.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous parle à la radio. C'est la première fois, vous voyez, depuis 6 ans que je m'exprime, parce que tellement j'en ai gros sur le cœur, et que ma vie, pour l'instant, elle ressemble plus à rien.
Alors, justement, on va en parler de cette vie, parce qu'il va falloir faire quelque chose là maintenant, Didier. Il va falloir essayer de remonter la pente, parce que lorsque vous avez évoqué votre famille tout à l'heure, vos enfants, votre femme, le couple qui en prend un coup, Il faut faire quelque chose maintenant.
Oui, je vous écoute.
Non, mais vous allez me parler de ce couple, justement, comment votre femme a vécu tous ces événements, et notamment, vous m'avez dit avoir fait une tentative de suicide.
Quatre, malheureusement.
Imaginez, en fait, la démission, en fait, dans la tête des vôtres, de ceux qui vous aiment. Le fait que vous vouliez quitter la vie, c'est comme si en fait vous baissiez les bras et que plus rien ne comptait. Donc
vous savez, dans ces moments-là, on réfléchit même pas.
Ça vient
comme ça d'un coup.
La souffrance.
Vous cachez, vous descendez dans votre garage sans que votre épouse vous a vu sortir du lit.
Oui.
Vous allez dans la cave. Vous essayez de planquer vos médicaments, vous prenez une grosse dose de médicaments, vous avalez une bouteille de whisky et vous attendez, vous vous écroulez dans le garage. Et là, votre femme découvre que vous n'êtes pas dans votre lit et elle vous cherche partout et elle vous trouve en état de coma éthylique.
C'est terrible. On va évoquer ces passages compliqués et surtout essayer de trouver... un semblant de lumière dans tout ça et essayer d'attraper un peu ces rayons de lumière ensemble. Hein, on laisse passer l'info sur Europe et on se parle après, Didier. À tout de suite. Il est minuit passé de 7 minutes. Vous êtes sur votre radio sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez continuer à joindre Florian, Natacha et Philippe qui sont en régie et qui vous attendent au 39-21. Ou continuez de nous écrire comme vous le faites si nombreuses et nombreux chaque soir au 739-21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Je dis nombreuses et nombreux puisque vous avez continué à commenter le témoignage de Sacha tout à l'heure. Je parle de Bernard, je parle de Jo, je parle de Camille, encore une fois, de Patrick, qui nous ont donné encore leur avis sur ce témoignage de Sacha. Bon, voilà, j'espère que Sacha aura pris note de tous ces bons conseils, chers amis, et que nous aurons bientôt des nouvelles de lui. Nous sommes pour le moment avec Didier qui nous parle de ce burn-out qui dure depuis 6 ans, d'une vie professionnelle heureuse, épanouie, de 22 ans, saccagée par l'arrivée d'un nouveau supérieur hiérarchique, visiblement un supérieur hiérarchique qui n'avait même pas le courage d'annoncer ses prises de position, puisque Didier nous expliquait juste avant l'info qu'il avait appris ces changements parfois par le biais d'un collègue et non par son chef directement. On évoquait, Didier, ce burn-out, on évoquait ces tentatives de suicide, la souffrance qui prend le pas sur tout le reste, et cette souffrance qu'on a envie d'abréger et qui fait qu'au moment où on décide de mettre fin à sa vie, on ne pense plus qu'à l'abréger cette souffrance et que plus rien ne compte autour. Donc, vous me disiez que vous aviez fait 4 tentatives de suicide. À quand remonte la dernière?
En fait, les problèmes qui étaient liés à ce service étaient connus en fait, de la direction. Parce qu'en fait, il y a eu énormément d'enquêtes à partir de 2013 sur les risques psychosociaux, des CHSCT, des instances de coordination suite au suicide d'un autre agent, etc. Donc il y a eu beaucoup d'enquêtes liées à ce service. Donc c'était des problèmes qui étaient connus de la direction. Et en fait, pour moi-même, quand j'ai alerté, vous savez, j'ai alerté à au moins à 14 reprises ma direction à tous les niveaux hiérarchiques. Et je n'ai eu aucun retour de ma souffrance au travail et du harcèlement que je subissais.
Comment est-ce que vous l'expliquez, ça, que vous n'ayez eu aucun retour ?
Eh bien, moi, j'explique que... comment je peux expliquer ça ? En fait, j'étais tellement dans une souffrance morale, physique et psychologique... que j'essayais par tous les moyens d'alerter les différents niveaux hiérarchiques. Alors d'abord mon chef, ensuite mon N+1, mon N+2, etc. Et à chaque fois, malgré toutes les enquêtes qui ont eu lieu dans notre service, les choses sont restées telles que. mis à part les enquêtes. Donc c'était très difficile de dire il se passe quelque chose, moi je suis en souffrance et personne ne fait rien pour me sortir de
oui,
là.
Oui, faites quelque chose et rien.
Oui, voilà, moi, l'alerte c'était faites quelque chose, sortez-moi de là, je n'en peux plus, quoi. Et malheureusement, ça a duré comme ça pendant un an et demi parce que j'ai été arrêté définitivement en fait en juin 2014. Et les tentatives de suicide, j'ai commencé à les faire en 2013. Alors, un truc simple, c'est terrible. J'avais eu déjà plusieurs arrêts de travail en 2013. Et en 2013, en octobre 2013, je rentre à la maison avec un nouveau arrêt de travail pour les mêmes raisons. La souffrance, dépression, etc., etc. Et je présente, je dis à mon épouse, voilà, je suis encore arrêté pendant 15 jours. Elle me dit, c'est pas possible, voilà. Elle avait du mal à comprendre ce qui se passait. Elle avait du mal à comprendre. Donc là, moi, je me suis énervé. Et je suis sorti, et il y avait la construction d'une ligne LGV qui était juste à côté de chez moi, avec un trou de 13 mètres de profondeur. Et là, je me suis approché du trou. Avec les pieds, j'ai voulu avancer petit à petit, jusqu'à ce que je tombe dedans. Oui. Et en fait, j'ai fini par reculer et rentrer à la maison. Vous voyez ? Donc ça, c'était une première fois. Donc, c'est... Et puis vous rentrez, et là, votre femme vous prend dans les bras en disant « Je suis désolé de t'avoir dit ça. » Voilà, c'est... Vous pleurez, vous faites que ça, de pleurer, oui.
Aujourd'hui, vous en êtes où avec cette administration, en fait ? Parce que c'est l'administration encore, là. On est,
tout à fait.
Est-ce que vous êtes reconnu, votre maladie, vu que vous êtes en arrêt, est-ce qu'elle a été reconnue par votre administration ? Est-ce que les choses évoluent à ce niveau-là ?
Alors, ce que j'ai fait, dès que j'ai été arrêté, en fait, j'ai fait une déclaration d'accident du travail. En 2014, sans réponse de mon administration, fin 2014, j'ai envoyé un courrier en disant que j'allais saisir moi-même la commission de réforme pour faire reconnaître mon syndrome dépressif en maladie, en accident du travail. Donc à partir de là, mon employeur donc m'a sollicité, m'a demandé de passer une expertise médicale. J'ai passé une expertise médicale qui a été favorable à la reconnaissance en maladie imputable au service.
D'accord. Ce qui est plutôt bien, ça. Ce qui est
plutôt bien. Fait. L'expertise était favorable, donc c'était très bien. Et en plus, et voilà, il reconnaissait ma dépression en lien avec le travail. Donc, parce que j'avais aucun antécédent psychiatrique, sauf à partir de janvier 2013. Donc sinon, jamais de médicaments, jamais d'antidépresseurs, jamais de somnifères, rien du tout. Et ça, mon médecin me l'a écrit et pour le prouver. Et à partir de... Le CHU a envoyé l'expertise à la commission de réforme. Et quand je suis passé devant la commission de réforme, en fait, les membres de la commission de réforme, quand ils ont lu le rapport du médecin du travail... qui précisait que j'étais mise à l'écart dans des domaines qui normalement m'incombent.
Donc
le médecin du travail l'a écrit. D'accord. Mise à l'écart. Donc
une forme de harcèlement, une forme de harcèlement reconnue par la médecine du travail.
Alors là, c'était pas je parlais déjà du harcèlement, mais c'était pas ma démarche dans un premier temps. Ma démarche dans un premier temps, c'était la reconnaissance de cette maladie, de cette dépression imputable au service, pour me soulager psychologiquement et moralement. Voilà, c'est ça, je voulais cette reconnaissance, en me disant dans ma tête, ce n'est pas de ta faute, on t'a harcelé, on t'a mis à l'écart, voilà, c'est plus de ta faute. Maintenant, il ne faut plus que tu dises que c'est de ta faute, il faut absolument que tu remontes la pente, quoi.
Et ça vous a fait du bien, ça ?
Malheureusement, la commission de réforme a donné un avis défavorable. Et la raison qu'ils m'ont donné, la commission de réforme, c'est que mon dossier répondait à des critères de harcèlement moral. Et la commission de réforme m'a dit clairement nous ne sommes pas compétents
ouais, ils ne sont pas
pour
habilités.
Reconnaître un harcèlement moral en maladie imputable. Et donc, on émet un avis défavorable.
Oui. Voilà. C'est-à-dire que j'ai l'impression que dans toutes ces histoires, on se refile la patate chaude. Personne n'est capable de prendre vraiment voilà. une décision et de reconnaître le harcèlement. D'ailleurs, hein, je le redis ce soir, certains vont dire peut-être que je rabâche les choses, mais
non,
la France
non,
est un pays,
assez.
La France est un des pays européens aujourd'hui, hein, le pays des droits de l'homme, qui ne reconnaît pas le burn-out comme étant une maladie professionnelle. Aujourd'hui, des
moi,
dizaines...
Moi, c'est pas un burn-out, attention. Hein. Moi, c'est pas un burn-out. Hein. Moi, c'est une dépression sévère en lien avec les conditions de travail.
Bah, c'est une sorte de burn-out. Hein.
C'est les mêmes symptômes. Hein. De toute façon, c'est... voilà. Mais... voilà, c'est surtout lié à une souffrance au travail suite à harcèlement, bien sûr, harcèlement et conditions de travail surtout. Et en fait, donc, si je peux me permettre de continuer là-dessus, en fait, quand le CHU a reçu l'avis défavorable de la commission de réforme, bien sûr, mon employeur a suivi l'avis de la commission de réforme, donc a refusé de reconnaître la maladie imputable au service. Donc j'ai reçu une décision et cette décision, j'ai pris un avocat et je l'ai contestée devant le tribunal administratif.
Oui.
Et ça, c'était en 2000. Alors ce qui m'a foutu en l'air aussi, c'est toutes ces démarches administratives.
Qui sont
ça,
longues.
Ça m'a tué. Ça m'a tué.
Fatigante.
Ça m'a tué. Ça m'a eu. Et j'ai fait, pendant cette période-là, j'ai quand même fait deux tentatives de suicide, dont une. Où j'ai fini malheureusement en réanimation. Là, c'était vraiment... j'étais à la limite de plus être présent dans ce monde qui me convenait plus, quoi. Mmh. Et donc, donc, le tribunal, au bout d'un certain temps, a annulé la décision du CHU et a demandé au CHU de réexaminer ma situation. Sauf que si le tribunal en fait annulait la décision et demandait au CHU de reprendre une nouvelle décision, ça voulait dire tout simplement qu'il fallait reconnaître ma dépression en maladie imputable. Je vois pas d'autre solution.
D'accord, chose qu'ils ont continué à nier.
Voilà, ils m'ont refait passer, donc c'est pour les interlocuteurs qui nous écoutent, ils m'ont refait passer tout le truc, expertise, commission de réforme, etc., etc., etc. Et ils ont émis un nouveau refus. Donc, moi, ce que j'ai fait avec mon avocat, c'est que j'ai demandé au tribunal en disant que le jugement n'avait pas été exécuté. Ça veut dire qu'en fait, il n'avait pas reconnu. Et là, le tribunal m'a suivi. Et a ordonné, a enjoint en fait mon employeur de reconnaître la maladie imputable au bout de 4 ans et demi. Et là, le CHU a reconnu ma maladie imputable au service.
D'accord.
Au bout de 4 ans et demi de procédure.
Bon, en tout
et
cas,
ça m'a usé, ça m'a tué.
En vous écoutant, Didier, on sent combien vous avez été, comme vous le dites, usé et fatigué par ces démarches. Bon, en même temps, vous vous êtes battu. C'est aussi ce que je retiens.
Et j'ai pas fini, je continue encore.
Mais il faut continuer. Il faut continuer parce que, quoi qu'il arrive, vous allez arriver. Il faut croire aussi, hein, même si ces institutions sont lentes, hein, sont souvent débordées, hein, par tous les dossiers. Il y a quand même dans ces institutions des femmes et des hommes qui sont magistrats et qui sont aussi là pour reconnaître les fautes imputables à ces employeurs et surtout... On a eu beaucoup d'appels hein, de personnes de l'administration, hein, de salariés de l'administration ces dernières semaines. Ça traduit quand même un malaise énorme dans l'administration et tout de même des comportements qu'on ne devrait pas trouver justement dans l'administration qui est censée quand même être le privé. Vous voyez, quand c'est le privé, on sait qu'on fait un peu ce qu'on veut dans le privé, que voilà, il y a un patron et puis que... Mais comment se fait-il que dans l'administration, ça soit aussi problématique que ça et qu'il se passe ce genre de choses.
Donc, quand toutes les conditions sont réunies, le service où ça arrive est montré du doigt, participe à de nombreuses réunions, à des mises en garde des syndicats, mises en garde du médecin du travail, etc., et qu'on continue à rester dans le déni en disant non, vous savez bien le terme qu'on utilise, hein, la grande muette. Surtout, rien ne sort, voilà.
Pour finir, Didier, car nous devons conclure.
Oui, tout à fait.
Ce chef Haillon, là, qui a saccagé votre vie, où il est aujourd'hui? Est-ce qu'il est toujours en place? Est-ce que lui...
Non. Justement, en fait, moi, j'ai appris... alors, moi, je suis parti en juin 2014, et lui a été... de ce que j'ai entendu, il a été, on lui a demandé de faire valoir ses droits à la retraite.
Oui, c'était une manière de le pousser dehors quand même. Hein.
Voilà, et il est parti en juillet 2015. Donc, c'est quelqu'un qui voulait continuer à exercer. Et donc, en juillet, suite à une convocation, on lui a demandé de faire valoir ses droits à la retraite. En fait, quand on fait valoir ses droits à la retraite, c'est une sanction. Ça peut être une sanction, mais ça, j'en ai pas du tout
la preuve.
Mais dans l'administration, c'est une sanction de niveau 4, très lourde.
Bon, en tout cas, il est assez rassurant de savoir que cet homme ne pourra plus sévir. Mais bon, ce qui est encore étonnant, c'est que dans tout ça, cet homme n'ait pas été inquiété vraiment. Parce que les conséquences sur votre vie à vous, comme vous l'avez dit tout à l'heure, elles sont très graves. Vous pourriez ne pas être là ce soir pour raconter tout ça. Donc, j'espère que ça, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ont des responsabilités dans ces entreprises, dans ces administrations, j'espère qu'il y a une réflexion autour de ça, autour de la manière de manager, de la manière d'échanger avec... avec ses collègues, avec ses collaborateurs et d'essayer tout de même de...
Et ne pas rester dans le déni.
Oui, et puis surtout rester dans les règles quand même, on est quand même au travail, on n'est pas là pour mourir au travail quand même, n'est pas là pour s'abîmer.
Alors que moi j'ai failli mourir plusieurs fois au travail. Quoi.
Merci en tout cas Didier nous avoir appelé ce soir au 3921. Je vous souhaite plein de courage parce que ça n'est pas fini, mais bon, vous tenez le bon bout quand même, alors ne lâchez rien.
Voilà, merci Olivier.
Je vous en prie, passez une bonne nuit Didier.
Merci, à bientôt.
Au revoir,
merci
à bientôt, au revoir.
Merci aux interlocuteurs.
Au revoir.
Au revoir.